Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Question ce soir, qu'est-ce qui explique les tensions entre la Guinée et certains de ses voisins avec lesquels les frontières sont fermées depuis septembre 2020 et qui payent la note de cette situation? Nous en parlons ce soir, mais d'abord, direction la Côte d'Ivoire, retrouver notre invité, Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et enseignant-chercheur à l'université Oufouet-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, en visite dans son village à Mama, a multiplié les déclarations sur son transfert à la Cour pénale internationale, la présidentielle contestée de 2010, qu'il affirme avoir gagnée. Il a aussi déclaré qu'il n'excluait pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Quels sont les principaux destinataires de ces déclarations ?
Ok, d'abord, de par l'endroit où il tient ses discours, c'est d'abord à ses partisans. Et voilà, il tient dans ses fiefs, mais au-delà de ses partisans, tous ceux qui s'intéressent à la politique ivoirienne, il parle d'élections, du futur, et même de la crise post-électorale, donc à toute la classe politique, à l'ensemble des Ivoiriens, et à tous ceux qui s'intéressent à la politique ivoirienne, tous ceux qui sont concernés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est en train, là, pour ce qui concerne la crise post-électorale, de donner une sorte de version officielle qui sera reprise par ses militants et qui s'oppose à ce qui a été dit au lendemain de la crise, avec pour argument son acquittement. Donc, je pense que tout le monde a pris son compte dans les déclarations actuelles du président Laurent Gbagbo.
Est-ce que vous diriez que ce discours est aussi empreint de rancœur et peut-être aussi de rancune?
En tout cas, on voit qu'il n'a pas avalé la couleuvre. En tout cas, pour lui, ces événements ne sont pas passés et ces événements sont discutables. Après, il a pour lui le procès qui va tout le mettre en évidence, mais en clair, on n'est pas forcément dans un discours à 200% orienté sur une politique de réconciliation nationale. On est sur un discours qui doit justifier d'abord sa position, la position de ses partisans, qui doit les galvaniser, et un discours qui signale clairement qu'il a pour objectif de répondre à la lutte politique et la conquête du pouvoir.
Est-ce que ces propos ne donnent pas aussi une idée de ce que peuvent être ses relations actuelles et peut-être même futures avec le président Alassane Ouattara?
Mais bien sûr, c'est clair, il se positionne en opposant au régime Ouattara, puisqu'il rejette les versions du régime Ouattara, il parle de reconquête, il parle de ses troupes. Justement, Laurent Gbagbo vient pour être un homme politique et un homme politique dans l'opposition. Certes, il se positionne clairement dans l'opposition frontale. Certes, on s'aperçoit que les relations sont très froides avec le régime Ouattara, mais il y a obligation de parler à certains moments, au moins de sujets importants pour la nation, comme l'état de droit, comme l'organisation des élections, comme la réconciliation. C'est des sujets sur lesquels ils seront obligés de se parler.
Face aux propos de Laurent Gbagbo, comment pourrait réagir le président Ouattara, clairement visé?
Alassane Ouattara lui-même commente très peu ce que ses opposants font. Après, il a son parti, notamment, qui a des porte-paroles, qui a des gens qui ont une parole assez forte, le directeur exécutif Adama Bittogo, le porte-parole Adjumani ou son adjoint Mamadou Touré, et c'est sûr qu'ils apporteront la réplique à tout ce que dira le camp Laurent Gbagbo. Mais Alassane Ouattara, je pense qu'il va prendre, il va prendre de la hauteur. S'il doit se prononcer, je pense que ça sera en père de la nation, essayer de montrer ou d'attirer l'attention vers la nécessité de garder la stabilité, de renforcer la réconciliation.
Mais la position aujourd'hui de Laurent Gbagbo peut-elle peut-être pousser Alassane Ouattara qui souhaitait se retirer de la scène politique en promouvant à l'époque la candidature de Feu Amadou Gon Coulibaly à reconsidérer sa position dans la perspective de la prochaine présidentielle?
C'est pas exclu. Si Alassane Ouattara, en analysant la situation politique, estime, comme il a estimé à la mort de Amadou Gon Coulibaly, qu'il est le seul à même de conserver le pouvoir, de battre Laurent Gbagbo et le PDCI dans une élection, je pense qu'il le fera. puisque constitutionnellement, il en a le droit. L'argument disant que les comptes ont été remis à zéro lui permet de solliciter un autre mandat. Après, on est en 2021, il reste encore 4 ans, on ne sait pas comment la situation politique va évoluer. Alassane Ouattara a encore l'initiative juridique, donc il peut aussi proposer une modification de la Constitution pour instaurer des mandats, c'est aussi ça. Il peut simplement gracier plutôt que d'amnistier Laurent Gbagbo, et donc il y a toutes ces manœuvres qui sont possibles.
Donc Alassane Ouattara dispose, dites-vous, cette arme judiciaire, la condamnation à 20 ans de Laurent Gbagbo, pour pouvoir éventuellement riposter?
Oui, bien sûr, il a des armes. Je dis, il a des armes juridiques, notamment une modification de la Constitution. Aujourd'hui, il a pratiquement 2/3 du Parlement réuni.
Dans ces conditions, quid de cette réconciliation que souhaitent les Ivoiriens et dont parle l'ensemble de la classe politique?
La réconciliation ne doit pas exclure le combat politique. La réconciliation, ce n'est pas une trêve politique. La réconciliation doit être bâtie, à mon avis, autour de la justice pour tous, autour du pardon, autour de l'état de droit, autour d'élections transparentes et apaisées. On ne va pas dire au nom de la réconciliation plus personne ne fait de la politique, c'est d'ailleurs même à renforcer le pays dans les abîmes. Il faut cette dynamique politique, il faut cette diversité politique, mais elle doit se faire dans des règles de l'art. Et quand ces règles-là sont respectées entièrement, tiennent des discours politiques sans qu'ils ne soient haineux, en ce moment, on va dans la réconciliation. L'opposition politique, la réconciliation ne veut pas dire fin d'opposition politique.
Docteur Arthur Banga, merci beaucoup.
Merci.
Politologue et enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir d'économie. En septembre 2020, alors que la Guinée est à un mois de la présidentielle, fortement contestée par l'opposition et la société civile qui organise des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé, eh bien, les autorités guinéennes décident unilatéralement de fermer les frontières terrestres avec 3 pays voisins. Il s'agit du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Et en attendant la réouverture de ces frontières, même si, côté Sierra Leonais, les choses ont été reprises en février dernier, les conséquences sont nombreuses et la facture très salée pour les 3 pays. Les pertes se chiffreraient en milliards, affirment certains importateurs. Qu'est-ce qui explique les tensions entre la Guinée et ses 3 voisins? Et qui paye cette note? Nous en parlons ce soir avec 3 invités. Moussa Cissé, bonsoir. Moussa Cissé, qui est secrétaire administratif et porte-parole de l'Association des importateurs de véhicules et pièces détachées de Guinée. Vous êtes à Conakry, monsieur Cissé, si vous m'entendez. Bonsoir.
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir.
Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Et en ligne de Paris, ici, Karamon Abbé, bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous les auditeurs.
Coordonnateur du RPG, le parti présidentiel en Guinée, et en ligne de Bamako au Mali, Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université donc de Bamako. Je commence avec vous, hein, monsieur Karamo, puisque cette fermeture était une décision politique. Les raisons avancées par les autorités guinéennes pour décider ou pour justifier la fermeture des frontières avec ces 3 voisins étaient-elles vraiment fondées?
Oui, une nouvelle fois, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, bon, effectivement, vous savez, bon, à la veille des élections présidentielles en Guinée au mois d'octobre dernier, donc il y avait beaucoup de menaces, notamment aux frontières guinéennes, pour ces 3 pays, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone.
Quel genre de menaces?
Justement, donc je pense que le gouvernement guinéen avait sollicité tous ces différents pays pour leur signifier en tout cas les menaces. D'abord du côté de la Sierra Leone, c'était des menaces en tout cas d'introduction de personnes, comment dirais-je, sur la base communautaire pour essayer un peu de semer le trouble et les faire voter. Et puis, bon, au-delà de ça, il y avait aussi des menaces d'introduction d'armes qui se répétaient aussi des deux côtés, justement sénégalaises et bissau-guinéennes. Donc, c'était uniquement pour des raisons de sécurité en ce moment que les frontières avaient été fermées. Et puis, bon, le président guinéen avait même demandé en ce moment, en tout cas, il avait sollicité le président, comment dirais-je, sénégalais, pour essayer de mettre en place, en fait, Macky Sall, pour essayer de mettre en place des unités mixtes de patrouille aux frontières. Comme cette demande avait été sans suite en ce moment, ben, du coup, la Guinée a décidé, justement pour des raisons sécuritaires, bon, parce qu'avant tout, que l'on appartienne à la CEDEAO, qu'on en appartienne à l'Union africaine, la priorité, et malgré toutes les conséquences économiques que cela engendre quand même aujourd'hui, la priorité et l'ultime priorité, c'est vraiment la sécurité de la population.
D'accord. Et certains se demandent, si c'était donc pour ces raisons, à l'époque, le gouvernement l'a dit, qu'il y avait des raisons sécuritaires et de possibles opérations de déstabilisation menées depuis l'extérieur, ce que vous confirmez. Depuis, les élections sont passées en octobre et la Guinée a rétabli ses relations, a rouvert les frontières avec la Sierra Leone. Pourquoi pas avec le Sénégal et la Guinée-Bissau ?
Oui, justement, bon, la réponse à cette question se trouve un peu dans ce que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, les motifs étaient assez clairs. Donc, il y a une demande qui a été faite, par exemple, du côté du Sénégal pour la mise en place d'une unité mixte. Cette réponse a été donnée justement du côté de la Sierra Leone. Vous avez vu que le président Sierra Leone, par exemple, s'est déplacé. Il est venu en Guinée. Il y a le ministre des Affaires étrangères de la Guinée aussi ici, même si ma mémoire est bonne, qui était parti en Sierra Leone. Il y a eu des unités mixtes qui ont été mises en place, en tout cas du côté des deux gouvernements. Et là, à partir du moment où la Guinée a été assurée que sa sécurité n'est plus menacée de ce côté, et la Sierra Leone aussi réciproquement, et donc il a été décidé d'ouvrir les frontières. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des unités mixtes qui sont en train, en tout cas, de travailler le long des frontières guinéo-sierra-leonaises. Et de ce côté, il n'y a plus de menace. Par contre, cette réponse n'a pas encore été donnée, notamment du côté du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Vous avez vu récemment, le 19 juin, qu'il y a eu quand même
Il y a un accord qui a été signé en marge du sommet de la CEDEAO à Accra. On va en parler, M. Carmo. On va permettre aux autres panélistes de réagir dans cette première partie. M. Makalou, est-ce que vous pensez que des raisons avancées par la Guinée peuvent être considérées comme légitimes pour décider de façon unilatérale dans un espace communautaire qui appartient à ces trois pays, comme ça, de fermer les frontières. Est-ce que c'est légal ?
Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Je vous remercie pour votre question. J'aimerais préciser d'abord que je ne suis pas économiste chercheur à l'université, mais je suis économiste, j'ai mon propre cabinet de consultation.
Voilà. Merci beaucoup et toutes nos excuses pour cette erreur sur votre présentation.
Merci madame. Donc pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que en fait, vous savez, l'intégration économique, quand même, la Guinée est vraiment un précurseur avec le Ghana. Et l'intégration économique implique la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Mais si nous allons au niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, et vous savez que cette organisation sous-régionale fait partie des 8 communautés économiques régionales créé par l'Union africaine, bien vrai que la CEDEAO ait précédé la création de l'Union africaine, mais c'est la CEDEAO qui s'occupe des 15 pays dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone font partie de la CEDEAO.
Autrement donc, dit, en quelques mots, M. Makalou, puisqu'on va bientôt marquer la pause et il nous faut écouter aussi M. Cissé, est-ce que cette décision unilatérale de Conakry était en phase avec les textes de la CEDEAO ?
Mais non, ça viole tous les codes de l'intégration économique. D'abord, le premier degré de l'intégration économique, c'est le libre-échange. Ça veut dire que les marchandises et les personnes doivent circuler entre les pays. Mais pour la CEDEAO, nous sommes au degré le plus élevé de l'intégration économique, qui comprend non seulement la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais l'harmonisation des politiques économiques et fiscales pouvant mener à une monnaie unique. Donc il n'y a pas plus élevé au niveau de l'intégration économique que ce que la CEDEAO est en train d'envisager maintenant. Donc les échanges sont très importants entre les pays, et vous savez que le Sénégal, quand même, contient la plus importante diaspora de la Guinée. en Afrique. Et donc, c'est des échanges très importants qui se font de part et d'autre, surtout au niveau de la moyenne Guinée, qui est ravitaillée essentiellement par le Sénégal, qui est quand même l'un des pays les plus industrialisés de l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest en tout cas. Et donc, cette frontière est longue de 300 kilomètres à peu près, mais il y a d'importants échanges, surtout au niveau des transports routiers, c'est-à-dire qui ont cela a une répercussion sur la vie de tous les jours.
Merci.
Non seulement au Sénégal, mais aussi en Guinée.
Merci beaucoup. Monsieur Cissé, cela a été une décision très difficile à accepter pour vous en tant qu'opérateur économique.
Effectivement, c'est une décision qui est très difficile pour nous. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une décision qui date du début décembre 2020. Il y a un décret qui stipule l'interdiction des véhicules à l'importation par rapport à un NAS donné, c'est-à-dire par rapport à l'année des véhicules, c'est-à-dire de 8 ans à l'époque. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une association qui a su vraiment se mobiliser, aller rencontrer les autorités concernées. On a déposé des courriers pour pouvoir vraiment faire des tête-à-tête avec eux. Et cela a donné vraiment raison à nous, puisqu'ils ont quitté de 8 ans d'âge à 13 ans. Mais notre vœu voudrait vraiment qu'ils comprennent que le problème que nous vivons en Guinée, nous ne pouvons pas seulement viser l'âge des véhicules.
Mais pardon, là peut-être on parle d'autre chose, mais dites-nous, pour ce qui est de la fermeture des frontières, comment votre activité a-t-elle été affectée de manière concrète? Ou est-elle affectée puisque les frontières restent fermées?
Non, par rapport à la fermeture des frontières avec le Sénégal et le Mali, pratiquement, nous, nos marchandises ne transitent pas à travers ces pays-là. Nos marchandises viennent directement du port de Conakry. Mmh. Ça concerne beaucoup plus ceux qui sont dans l'agroalimentaire, des mayonnaises, des beurres, des produits, d'autres produits, mais pas des véhicules. Nous n'avons pas suffisamment de commerçants et d'importateurs de véhicules qui transportent, c'est-à-dire qui importent des véhicules à travers le Mali et le Sénégal. Et au contraire, c'est les Sénégalais et les Maliens qui passent par le port de Guinée, compte tenu peut-être du coût douanier.
Donc les conséquences étaient davantage ressenties du côté du Sénégal que du vôtre pour ce qui est de votre activité.
Pour ce qui est de notre activité, moi, c'est les conséquences par rapport à l'interdiction des véhicules de plus de 13 ans que je voulais ressortir.
D'accord.
Mais avec maintenant les conséquences liées à la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau, nous n'avons pas vraiment de conséquences directes.
Merci beaucoup, M. Moussa Cissé. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler des conséquences de cette fermeture de frontières décidée par la Guinée avec trois de ses pays voisins.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et les conséquences de la fermeture unilatérale de la frontière entre la Guinée et le Sénégal ainsi que la Guinée-Bissau, nous en parlons ce soir avec nos invités Modibo Mao Makalou, économiste basé à Bamako au Mali, Moussa Cissé, secrétaire administratif et porte-parole de l'association des importateurs de véhicules de Guinée à Conakry, Karamo Nabé, coordonnateur du RPG Europe ici à Paris, et nous serons rejoints dans quelques instants par un de nos confrères sénégalais qui est journaliste économique, donc qui sera avec nous dans quelques instants. Je vais retourner à vous avant de poursuivre, puisqu'on commençait à parler de la question de l'incidence et des conséquences réelles de cette décision sur les opérateurs. Mais je voudrais encore qu'on revienne en deux mots, monsieur Karamo Nabé. La frontière donc a été ouverte avec la Sierra Leone en février, mais un accord a été trouvé avec le Sénégal en marge du sommet de la CEDEAO, vous en parlez, mais toujours rien à dire sur la Guinée-Bissau. Est-ce qu'en quelques mots on peut savoir quel est le problème avec la Guinée-Bissau?
Oui, merci madame. Bon, je voudrais quand même apporter une précision importante. Nous parlons bien de frontières terrestres.
Absolument.
Les frontières aériennes restent ouvertes et la libre circulation elle est bien respectée de ce côté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, donc, vous savez, bon, pour la Guinée-Bissau particulièrement, bon, je pense le sommet dont vous parlez tout à l'heure, le 19 juin, vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec avec ce président. Quand vous devez essayer de négocier, essayer de trouver un terrain d'entente et que vous avez un voisin aussi encombrant, donc c'est un peu compliqué. C'est certainement ce qui retarde, comment dirais-je, les démarches.
Ben, parce pourriez-vous que, être plus précis, parce qu'on essaie aussi ce soir d'établir les raisons de la tension. Qu'est-ce qui cause cette tension entre la Guinée et ses trois pays voisins? Bon, la Sierra Leone n'est plus concernée, je le disais. Quand vous parlez de voisins encombrants, est-ce que vous pourriez être plus précis?
Oui, oui, mais madame, en fait, bon, notre frère de Bamako a dit tout à l'heure que effectivement le principe de libre circulation, comment dire, a été violé tout. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que chaque État aussi a un engagement. Avant de parler du principe de libre circulation, il y a aussi des devoirs de chaque État l'un envers l'autre. Vous savez, quand votre voisin vous alerte qu'il y a éventuellement des terroristes qui sont sur votre terrain et qui menacent, en tout cas, d'agresser son pays, et qu'il y a des criminels qui sont le long de votre frontière, qui risquent d'attaquer son pays, je pense que vous devez, en tout cas, en bon voisin, prendre toutes les dispositions pour essayer de faire en sorte que cela n'advienne pas. Vous savez que toutes, en tout cas, même sur le plan médiatique, toutes les sources de déstabilisation de la Guinée venaient pratiquement du Sénégal. Et vous avez vu comment les médias sénégalais attaquaient, comment dirais-je, le président de la République guinéenne. Vous avez vu des gens qui ont été, en tout cas, arrêtés le long de ces frontières-là avec des armes. Et si vous avez un voisin qui vous demande, en tout cas, que son pays est menacé et qui demande à ce que vous établissiez ensemble, comment dirais-je, des accords de coopération militaire et technique pour essayer de faire des patrouilles le long, en tout cas, des frontières-là, jusqu'à ce que cette menace soit écartée, je pense qu'un bon voisin, vous devez l'écouter et essayer de faire en sorte que cette menace soit écartée pour que les frontières restent ouvertes telles qu'elles sont. Aujourd'hui, si la tension persiste et que les frontières ne sont toujours pas ouvertes, c'est ce que je vous ai dit, c'est parce qu'aujourd'hui, ces pays n'ont, en tout cas, pas sur le terrain montré pour le moment une vraie volonté de coopération pour faire en sorte que ce qui s'est passé avec la Sierra Leone se fasse avec les différents pays. Parce que posez-vous la question, pourquoi les frontières ne sont pas fermées, par exemple, avec le Mali? Pourquoi elles ne sont pas fermées avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi elles ne sont pas fermées avec le Libéria? Parce qu'il n'y a aucune menace de ce côté. Il y a des menaces bien établies qui ont été, en tout cas, signalées aux autorités sénégalaises.
Monsieur Nabé, on a bien compris, hein, la Guinée, ou tout au moins les autorités guinéennes ont souvent accusé le Sénégal, et dans une certaine mesure, la Guinée-Bissau, d'être l'arrière-barre des opposants, de soutenir l'opposition. Donc, on comprend très bien que ce sont des raisons purement politiques. Monsieur Makalou...
Là, je vous ai parlé tout à l'heure de terrorisme et de criminalité transfrontalière. Donc, il n'y a pas que politique derrière tout ça. Et donc, soyez quand même beaucoup plus précis sur ce plan. Il n'y a rien
merci.
De politique là. Là, il s'agit vraiment de criminels et de terroristes qui pourraient...
Qu'abriteraient le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Voilà, c'est ça.
Des terroristes qui voudraient s'attaquer à la Guinée, mais que protègent ces deux pays?
Que
ces deux pays protègent?
Probablement, oui. Donc, c'est ce qui a été signalé.
Je ne sais pas, c'est juste pour être sûr que vos propos sont bien résumés. Monsieur Makalou, en tout cas, ces frontières sont fermées. Les conséquences sont énormes, même si M. Moussa Cissé disait que pour ce qui est de leurs activités, les conséquences ne sont pas très importantes. Mais compte tenu du volume d'échanges entre ces deux pays, pour ce qui concerne les denrées, on a observé une hausse spectaculaire des prix de certaines denrées. Et les conséquences, est-ce qu'on peut aujourd'hui chiffrer de façon claire les pertes pour ces pays?
Mais écoutez, les pertes se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA au quotidien, parce que vous savez, les échanges sont assez importants entre la Guinée, Conakry et puis le Sénégal. Mais moi, j'aimerais dire que moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas politicien, je ne suis pas partisan. Mais le traité
c'est
du Lagos.
C'est pour cela que nous avons invité un économiste qui n'est ni sénégalais ni guinéen.
Notre frère guinéen vient de dire tout de suite, je pense que c'était très mal placé de le dire. Mais ce que je puis dire, le traité de Lagos de la CEDEAO est un traité supranational. Ça veut dire que c'est au-delà des lois fondamentales des pays. C'est au-delà des lois fondamentales des pays, je le répète. Donc, moi, je ne viens pas tenir des propos partisans ici, mais par rapport à l'impact économique, c'est très important parce que vous savez, nos pays, les frontières sont artificielles dans nos pays. Mais je pense sincèrement que nous parlons des symptômes et les causes sont politiques à mon avis et je pense que ça va se résoudre politiquement et je pense que c'est en voie de règlement en tout cas entre le Sénégal et la Guinée-Conakry.
Mais compte tenu du fait que ça date quand même, c'est depuis septembre que cette mesure a été prise unilatéralement, depuis septembre, oui, 2020, et qu'aujourd'hui, cela fait bientôt deux semaines que l'accord a été signé à Accra, on le dit, mais on ne voit rien bouger, il n'y a aucune date qui a été avancée.
Non, mais parce qu'il faut que ce soit, c'est un processus long, il faut que ça passe, par les gouvernements approuvent, ensuite que ça aille au niveau des parlements, que ce soit ratifié, ça va encore prendre un peu de temps, mais... L'important, c'est que le dialogue ait lieu, que les deux
Mais quand on écoute M. Nabe, ça n'a pas l'air d'être... Ce n'est pas l'impression qu'on donne.
Le Sénégal, c'est en voie de règlement. Mais avec la Guinée-Bissau, il y a encore des frictions et encore c'est au niveau politique qui dépasse mon raisonnement économique.
Mais maintenant, au niveau des conséquences, de manière chiffrée, est-ce qu'on peut avoir une estimation? Est-ce qu'on peut savoir ce que chacun des pays perd en raison de cette situation? Ou à cause de cette situation
niveau, c'est au niveau des recettes fiscales. Vous savez, non seulement, ce n'est pas seulement... Il y a une partie de ce commerce qui est formelle, mais une grande partie qui est informelle, parce que c'est surtout au niveau de la nourriture, les denrées alimentaires périssables, qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que, comme on parle de transport terrestre, il y a des denrées périssables, mais les chiffres, c'est difficile de les obtenir parce que vous avez non seulement un aspect formel, mais vous avez un aspect informel. Mais ce que je puis vous dire, au niveau des frontières entre le Sénégal et la Guinée, ce qui est sûr, c'est au moins 2 à 3 milliards par jour de francs CFA qui se perdent tous les jours. En manque à gagner.
Manque à gagner et nous espérons avoir pour l'instant donc Abdou Diaw, journaliste sénégalais, spécialiste d'économie, qui est avec nous. Est-ce qu'il m'entend, M. Diaw? Abdou Diaw, non, peut-être pas. On va revenir à lui dans un instant. Monsieur Cissé, c'est vrai qu'on parle, on l'a dit, des pertes au niveau des denrées. Mais pour ce qui vous concerne, il y a aussi quand même au niveau de la Guinée, on a observé une augmentation importante, une sorte d'inflation des prix des denrées. Vous l'avez ressenti?
Oui, effectivement. Et vous savez, j'ai écouté les différents invités, mais il se peut aujourd'hui que moi, je serai le mieux placé pour décrire un peu la crise économique que traverse aujourd'hui la Guinée, puisque moi, je vis ici du jour au jour. Je suis marié... père de deux enfants, avec, comme vous le savez...
Dites-nous, comment vous ressentez les conséquences de cette fermeture?
La vie de Guinée devient de plus en plus chère. Souvent, on vous ressort la raison peut-être pandémique qu'on vous explique à la télé, comme quoi c'est en raison du coronavirus aujourd'hui qui frappe le monde que la vie devient chère. Mais il ne faut pas aussi écarter la fermeture des deux frontières, là, puisque aujourd'hui... Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des opérateurs économiques en Guinée, qui sont peut-être considérés comme certains partisans de l'UFDG et qui sont...
C'est-à-dire de l'opposition, le parti de Cellou Dalein Diallo.
De l'opposition aujourd'hui dans sa majorité, ont boycotté le port autonome de Conakry, qui préfèrent passer par le port de Dakar, transiter leurs marchandises et les faire rentrer par la voie terrestre, et l'abbé et les faire distribuer à travers le pays. Et c'est décision purement peut-être politique, mais qu'on avance à des raisons peut-être sécuritaires. Mais il faut aller un peu plus loin. Les conséquences aujourd'hui sont vraiment vécues par les Guinéens qui ont peut-être vu leurs prix qui sont multipliés par 10. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui pour avoir un casier de choix à Conakry qu'on avait l'habitude de payer à 25 à 30 000, sont aujourd'hui à 45 000, 50 000. Ce sont des faits concrets, palpables. On n'a pas besoin d'aller dans les écoles aussi plus loin pour savoir la crise que traverse aujourd'hui notre pays. Nous, importateurs de véhicules, très précisément, vous n'êtes pas sans savoir aussi, j'ai oublié de vous évoquer, on avait des clients qui venaient par la voie terrestre de Dakar à Conakry pour venir acheter des véhicules. Puisque du côté du port autonome de Dakar, c'est un peu plus cher le environnement, on avait des clients qui venaient acheter des véhicules et repartir avec leurs véhicules. ici sont bloqués depuis la fermeture de la frontière. Voilà des choses aujourd'hui qu'on peut expliquer, qui expliquent que vraiment cette fermeture, la personne n'a à gagner. Le mieux serait vraiment de se retrouver autour d'une même table, penser aux populations, vraiment qui vivent de jour au jour très difficilement.
Merci. Monsieur Nabé, que répondez-vous à ce cri lancé par le représentant des importateurs, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques guinéens notamment, qui estiment que cette situation n'a que trop duré et que les conséquences sont énormes?
Oui, je comprends très bien, Monsieur Cissé, et je partage, disons plutôt sa peine, et celle en tout cas de la population, de la partie de la population guinéenne qui est touchée par ça. Je peux même lui garantir que nous-mêmes ici, en tout cas, puisque bien que l'on vive ici, on a nos parents là-bas, on a même essayé en tout cas d'écrire pour alléger justement pour ce qui concerne en tout cas l'importation des véhicules. Et il vous a bien dit tout à l'heure que c'est passé de 8 ans à 13 ans. Donc c'est pour lui dire que les préoccupations, leurs préoccupations sont aussi les nôtres. Donc moi, tout ce que je peux leur demander aujourd'hui, c'est que malgré tous les milliards qui sont perdus aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment la sécurité. S'ils parlent en fait de ces milliards-là aujourd'hui, s'ils parlent du fait qu'ils peuvent faire leur commerce tout, c'est parce qu'il y a la sécurité.
Donc vous estimez que la menace reste toujours aussi forte, si je m'en tiens à ce que vous dites, qu'en septembre dernier, au moment où la Guinée prenait cette décision, Monsieur Nabé?
Non, peut-être pas au même niveau, mais la menace est toujours, en tout cas, au long des frontières. Contrairement à ce que notre frère disait, je ne vois pas quelle animosité politique, en tout cas, pourrait conduire le président Alpha Condé et le président Macky Sall à fermer leurs frontières. Non, ça n'a rien de politique. Puisque, à ma connaissance, il n'y a pas, en tout cas, ce genre de relations tendues entre le président guinéen et le président sénégalais.
Mais revenons aux conséquences. Mais aujourd'hui, qui a le plus à perdre dans cette situation? Compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'économie guinéenne, est-ce que c'est vraiment judicieux de se permettre de maintenir ses frontières fermées 8 mois après?
Oui, mais madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les deux pays, que ce soit la Guinée ou le Sénégal, ou les trois pays plus du moins, ou la Guinée-Bissau, aucun des pays n'a intérêt à fermer les frontières. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, l'idéal...
Mais ce n'est pas... C'est la Guinée qui a fermé.
Oui, bon, disons, c'est la Guinée qui a fermé ses frontières terrestres parce que c'est la Guinée qui était menacée. Si le Sénégal était menacé, le Sénégal allait le faire aussi. On a vu l'exemple avec Ebola. Quand il y a eu Ebola en Guinée, le Sénégal avait fermé unilatéralement ses frontières. Donc, excusez-moi, aujourd'hui, on parle de la Guinée, mais le Sénégal a fermé ses frontières justement pour des raisons sécuritaires en ce moment. Personne n'en parle aujourd'hui. Et donc, il y a d'autres pays aussi qui avaient fermé leurs frontières à la Guinée. Ces pays-là se disaient qu'ils étaient menacés en ce moment. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui est menacée. C'est pour cela que la Guinée a fermé ses frontières terrestres. Donc, aucun de ces trois pays n'a intérêt aujourd'hui à fermer ses frontières. Donc,
merci.
Le bien-être de la population, importe plus que tout le reste, hormis l'aspect sécuritaire. Donc, si aujourd'hui la Guinée ferme toujours ses frontières, c'est parce que il y a des raisons vraiment, valables et des raisons sécuritaires.
Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des conséquences de la fermeture unilatérale des frontières entre la Guinée et les deux pays voisins. Il s'agit du Sénégal et de la Guinée-Bissau et nous en parlons avec Karamou Mabnabé, coordonnateur du RPG Europe ici à Paris, Moussa Cissé, secrétaire administratif et porte-parole de l'association des importateurs de véhicules à Conakry, et en ligne de Bamako, l'économiste Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, compte tenu de la structure économique de ces pays, on peut dire un conflit, qui subit le plus les conséquences de cette décision, de cette fermeture des frontières?
C'est difficile à dire. Dans ce genre de problème, il n'y a pas de gagnant. Parce que vous savez, aujourd'hui, tous les pays sont interconnectés. Et dans nos pays, en réalité, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le revenu national et la richesse nationale, le commerce extérieur joue un rôle prépondérant. Surtout ces deux pays, essentiellement la Guinée et le Sénégal, sont des pays non enclavés. Donc leur port à la zone maritime a un apport important pour l'économie. Et les échanges entre les deux pays sont très importants, comme je vous l'ai dit, surtout au niveau terrestre. Et ça concerne surtout en grande partie les denrées périssables. Donc, ce que les gens consomment au jour le jour. Parce que vous savez, je l'ai déjà dit, la structure de l'économie des deux pays est un peu différente. Mais le Sénégal est beaucoup plus industrialisé, donc manufacture beaucoup plus de produits que la Guinée.
Donc le Sénégal peut mieux supporter le choc de cette fermeture que peut-être les autres pays, la Guinée et la Guinée-Bissau ?
Pour la Guinée-Bissau, bon, ça va être un peu plus problématique pour la Guinée-Bissau. Mais en réalité, les camionneurs, en grande partie, sont des camions des chauffeurs guinéens. Donc, ce sont des chefs de famille, les apprentis.
Oui, qui pour la plupart ont perdu leur emploi. D'autres disent avoir fait des prêts bancaires pour acheter des camions qui, aujourd'hui, ne leur rapportent plus rien. Et d'autres ont perdu carrément leur véhicule.
Exactement. Et comme vous le savez, la meilleure connexion entre nos pays, c'est à la route. Et donc, malheureusement, ce sont les deux pays, les trois pays qui vont perdre. Et ça, c'est vraiment malheureux. Mais je pense que, en tout cas pour le Sénégal et la Guinée, c'est en voie de résolution. Je pense que dans les semaines à venir, il y aura un aboutissement heureux, à mon avis.
Monsieur Karamo, avant de conclure avec Monsieur Cissé, tous ces camionneurs-là qui aujourd'hui ont perdu leur gagne-pain pour certains, pour d'autres qui n'ont plus de revenus du tout, qui va payer la note, qui va les indemniser ?
Aujourd'hui, bon, moi, je suis pas en mesure de vous dire réellement qui va les indemniser, mais je pense que le gouvernement guinéen, quand même, est assez responsable et certainement les syndicats et les différents camionneurs là doivent certainement avoir probablement des assurances. Je suis pas en mesure de répondre à cette question, mais le plus important, comme je vous l'ai dit, ben, certainement, là, s'il y a crise, en tout cas, les deux pays et les différentes assurances et les syndicats essaieront de trouver une solution pour faire en sorte que les gens en souffrent le moins possible. Et comme notre frère l'a dit tout à l'heure, donc bientôt les frontières seront ouvertes, même si vous l'avez dit, il n'y a aucune date qui est fixée, mais il y a quand même beaucoup de...
On parle d'ouverture imminente.
Voilà, on parle d'ouverture imminente. Il y a beaucoup de préalables qui ont déjà été, je pense, remplis. Il y a eu des discussions en mars dernier entre le ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, et des homologues sénégalais. Et probablement Bissau-Guinéen aussi. Et récemment aussi, il y a le ministre de la Défense, Dr Diané, qui s'est rencontré avec son homologue du Sénégal, M. Sidiki Ba-Kaba. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de préalables donc, qui ont déjà été remplis. Et bientôt, cette ouverture sera faite pour le bonheur de nos différentes populations. À partir du moment où, en tout cas, les conditions sécuritaires et les accords de coopération militaire et technique qui ont été signés le 19 juin seront remplis, tout le monde sera à l'aise. Je pense que les choses se passeront le mieux possible. Donc, merci. Pour le moment, la seule chose que moi je demande, en tout cas à tous nos concitoyens, c'est de comprendre qu'aucun gouvernement n'a intérêt à fermer ses frontières pour simplement faire souffrir sa population. Si le gouvernement décide réellement de fermer ses frontières, c'est parce qu'il y a des raisons valables et justifiées.
Merci, M. Nabé. Vous l'avez longuement dit au cours de cette émission. M. Moussa Cissé, qu'est-ce que vous attendez des autorités guinéennes ? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu d'être laissé pour compte, des oubliés de cette décision purement politique, même si voilà. M. Nabé soutient qu'elle est avant tout pour la sécurité des Guinéens.
Merci, madame. Vous savez, chez nous, on a un problème. Tant qu'on n'arrive pas à dissocier les problèmes politiques aux problèmes économiques et sécuritaires, nous ne saurons jamais où trouver la solution de nos problèmes. Moi qui vous parle, je n'ai pas besoin de décliner ma connotation politique. Et j'ai juste besoin de dire ce qui est vrai. Tant qu'on ne part pas directement droit au but, on ne saura pas régler ce problème-là. Vous savez, partir directement à fermer les frontières, c'est aller trop loin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Pour aujourd'hui se mettre à l'abri d'un État qui nous menace, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai assisté à la réception des scanners avec le président Alpha Condé au port. J'étais là ce jour. Aujourd'hui, le port guinéen, nous avons des logistiques qui nous permettent de connaître le contenu même des conteneurs. Ça veut dire que si un conteneur contient des produits aujourd'hui illicites, nous pouvons directement le détecter et le mettre hors état de nuire. Nous pouvons faire la même chose avec la frontière du Sénégal et de la Guinée-Bissau que de fermer carrément les frontières aux différents Guinéens qui se déplacent, qui vivent de ces frontières-là. puisqu'ils passent par ces frontières pour aller acheter des marchandises, venir vendre en Guinée et prenez aussi certains produits guinéens, aller vendre de l'autre côté. C'était la meilleure solution que de fermer Karoma et de nous avancer des arguments sécuritaires. Vous savez, M. Karamo Nabé, ça peut être un parent, puisque nous sommes pratiquement de même localité. Il y a de Banco, certainement. Moi, je suis de Nono. Donc, vous savez, nous sommes peut-être de même famille politique. Moi, j'ai toujours voté RPG, mais quand il s'agit de parler des questions essentielles, je n'ai pas de connotation politique. Je parle droit.
Donc, pour vous, c'est une erreur clairement prise.
Non, c'est une erreur et il ne faut même pas qu'on se mette derrière des arguments sécuritaires pour justifier cette décision.
Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez dans des autorités par rapport aux acteurs économiques qui subissent fortement les conséquences de cette décision? Vraiment, en deux mots?
Maintenant, en deux mots, moi, que ce soit le Sénégal, que ce soit un autre pays, quand on constate les menaces par rapport à ces pays-là, nous installons les scanners pour permettre les véhicules qui viennent, s'ils contiennent des armes, s'ils contiennent des choses qui peuvent vraiment aller déranger nos citoyens, et les mettre à haut état de nuit. Que de fermer carrément les frontières. Les conséquences économiques aujourd'hui à Conakry ou à Guinée tout entière sont palpables, sont négatives. Il faut se dire la vérité, il ne faut pas se voiler les faces.
Merci beaucoup Moussa Cissé, secrétaire administratif et porte-parole de l'association des importateurs de véhicules et pièces détachées de Guinée. Vous étiez en ligne de Conakry. Et en ligne de Bamako, l'économiste Modibo Mao Makalou et d'ici à Paris, Karamo Nabé, coordonnateur du RPG Europe, le parti au pouvoir en Guinée. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.